Chaud devant à Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
Isaïe a dit
« Prochain arrêt, Babylone !»
Salut Marc.
Salut Samuel. Alors, on voit quoi aujourd'hui?
On parle du prophète Isaïe.
Isaïe? C'est un grand prophète ça?
Comment est-ce que c'est un grand prophète? Ça va pas ou quoi? C'est un très grand prophète. Notamment par la taille de son livre, 66 chapitres.
Ah ouais, effectivement, il y a de quoi lire. Et il est arrivé quand le prophète Isaïe?
L'entête du livre nous précise les rois sous lesquels s'exerce le ministère du premier Isaïe.
Comment ça, du premier Isaïe? Il y en a plusieurs?
Effectivement, le livre d'Isaïe regroupe en un seul volume des prophètes d'époques diverses s'étalant sur plusieurs siècles. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple compilation de ses auteurs. La rédaction finale donne à l'ouvrage une homogénéité bien réelle.
Et tu peux me dire comment il se découpe le livre d'Isaïe, s'il y a plusieurs parties?
Le premier Isaïe, ou Primo Isaïe, c'est les chapitres 1 à 39. Il date d'entre 740 et 701 avant Jésus-Christ.
Et historiquement, qu'est-ce qui se passe en Israël à cette époque-là?
Pas en Israël. Le royaume est divisé en deux parties, suite à la mort du roi Salomon en 931 avant Jésus-Christ. Suite au schisme, il y a le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. La première partie du livre d'Isaïe se déroule dans le contexte de la montée en puissance de l'Assyrie qui conquiert les royaumes environnants, ce qui aboutira à la prise de Samarie en 721 et à la tentative d'attaque menée contre Jérusalem par le roi assyrien Sennachérib en 701.
Bon, d'accord, mais Isaïe, il fait quoi là-dedans?
Avec Isaïe, nous avons un exemple typique d'exercice du ministère prophétique en tant que conseiller royal. Sous plusieurs rois, Isaïe va s'impliquer activement dans les affaires politiques de Juda. Derrière cette constatation, il y a une théologie. À travers le prophète, c'est le Seigneur qui s'intéresse à la manière dont Israël mène sa politique.
Donc Dieu lui dit ce qu'il doit dire au roi, comment faire sa politique, et tout ça.
Oui, et on remarque chez Isaïe une vive critique de la politique des alliances avec les grandes puissances de l'époque.
Bon, c'est dommage, l'union fait la force.
Oui, mais pas du tout. Si tu as confiance dans le Seigneur, à quoi bon les alliances avec des peuples qui ne croient pas dans le Dieu unique? Pour le prophète, la seule grande puissance digne de confiance, c'est le Seigneur. Toute alliance étrangère apparaît comme un manque de confiance en Dieu.
D'accord, donc on a Dieu qui intervient via Isaïe, son prophète, dans la vie des hommes. Pourquoi Dieu intervient dans la vie des hommes? Qu'est-ce qu'il attend de nous?
De tout cela, il ressort que Dieu a un plan, un projet précis. Il n'intervient pas au hasard des circonstances, mais suivant un planning précis, bien déterminé. Chaque chose arrive en son temps. Par exemple, au chapitre 37, « Entends-tu bien? De longue date, j'ai préparé cela. Aux jours anciens, j'en fis le dessein. Maintenant, je le réalise. Ton destin fut de réduire en tas de ruines des villes fortifiées. »
Tout ça pour ça? Pour détruire des villes? Ah, franchement, là, je suis déçu.
Mais non, Marc. Tu penses vraiment que c'est ça l'objectif? Tu penses pas qu'on attend plus?
Bah, on attend Jésus.
Exactement. Avec Isaïe, on arrive à une révélation merveilleuse, l'attente du Messie.
Le Messie?
Oui, le Messie, le Christ. Écoute, premier oracle d'Isaïe, en chapitre 7. Le Seigneur parla encore à Akaz en disant « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, au fond dans le Shéol, ou vers les hauteurs, au-dessus. » Et Akaz dit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. » Il dit alors « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes que vous lassiez aussi, mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du lait caillé et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te jettent dans l'épouvante. »
La jeune femme est enceinte. Ben, c'est Marie, la mère de Jésus.
Oui, c'est comme cela que nous, chrétiens, nous l'interprétons. Si tu lis au Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 1.
Alors, voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Bah, c'est bien ce que je disais, c'est Jésus.
Oui, Isaïe est le prophète qui va introduire l'attente d'un Messie.
Ça veut dire quoi, Messie ?
Messie, ça vient de l'hébreu. En grec, ça se dit Christ.
Ah, ça m'éclaire beaucoup, ça.
Ça veut dire « oint », celui qui a reçu l'onction, l'onction d'huile. Il y a encore beaucoup d'autres textes d'Isaïe qui parlent de ce Messie. Isaïe au chapitre 9, « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice, dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux du Seigneur Sabaoth fera cela. » Isaïe va poser les bases du messianisme davidique.
Pourquoi messianisme davidique ? Qu'est-ce que David a à voir là-dedans ?
Il faut lire le troisième oracle, le roi juste, au chapitre 11. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, père de David. Un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera, mais non sur l'apparence. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa bouche et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours pèteront, ensemble se coucheront leurs petits. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic, sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal, ni de violence, sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Tu vois ? La figure principale de ce messianisme reste très mystérieuse et Isaïe n'emploie pas directement le terme de Messie, qui sera exploité directement dans le second Isaïe. Mais Isaïe dresse le portrait d'un personnage qui va récapituler tout ce que l'on attendra ultérieurement du Messie davidique.
Tu parles du second Isaïe, c'est quoi le second Isaïe ?
Oui, le second Isaïe ou Deutéro-Isaïe, c'est les chapitres 40 à 55. Le contexte historique est différent. Cette fois-ci, il s'agit de la montée en puissance de Cyrus, le roi de Perse, annonçant la fin de l'exil à Babylone. Les dates de 550 à 539 avant Jésus-Christ.
Mais quel exil à Babylone ?
Mais Marc, en 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem est prise par les Babyloniens.
Oh !
T'as jamais entendu parler du roi Nabucodonosor ?
Ah ouais, ça me dit quelque chose, ça.
Eh bien, Nabucodonosor a envahi les royaumes et les Juifs sont exilés à Babylone. Et Cyrus, le roi de Perse, quelques temps plus tard, décide aussi de se lancer dans de grandes conquêtes. Il va unir le Moyen-Orient et sa dernière conquête sera...
Babylone ?
Oui, il entre dans Babylone, détrône Balthazar, le fils de Nabonide, et lui confie un gouvernement en Médie. Il installe son propre fils, Cambyse, sur le trône de Babylone. C'en est fini de l'empire néo-babylonien de Nabucodonosor.
Et les Hébreux peuvent rentrer chez eux ?
Portant le titre de roi des rois, ou grand roi, Cyrus se montre dans ses triomphes habile et humain à la fois. C'est ainsi qu'il libère les Juifs déportés à Babylone par Nabucodonosor et les gratifie de généreuses donations pour reconstruire leur temple à Jérusalem. Cela lui vaudra une avalanche de louanges dans la Bible.
Ah, c'est difficile d'obtenir mieux en matière de publicité.
À partir du chapitre 49, le ton change et on entre dans une seconde phase du ministère du prophète. Et on voit également se développer le thème de l'universalité du salut. Les nations ne sont plus présentées comme les ennemis de Dieu, mais comme des peuples en attente de conversion. Le rôle d'Israël, ou tout du moins de ce petit reste humilié, va être d'évangéliser ces peuples et de les amener à reconnaître le seul vrai Dieu, le Seigneur.
Tu veux dire que maintenant le projet de Dieu s'étend à tous les hommes ?
Cette annonce du salut d'Israël et des nations, obtenue par le serviteur, pris au sein du peuple, elle va trouver son aboutissement en Jésus, Le second Isaïe est le prophète qui anticipe le plus les grandes nouveautés du Nouveau Testament.
D'ailleurs, en lisant Isaïe, j'ai vu qu'il y avait plusieurs références au cantique du serviteur.
La figure du serviteur va prendre sa dimension ultime en Jésus. Voyons comment ce passage s'applique particulièrement bien à Jésus. « Qui a cru ce que nous entendions dire, et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé ? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit. Objet de mépris abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. »
Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison.
Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche.
C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les criminels. Ce chapitre, c'est vraiment un résumé de la vie de Jésus.
Ainsi, les évangiles vont très clairement identifier Jésus au serviteur du chapitre 53 d'Isaïe. Ça confirme la portée universelle du salut annoncée par ce texte. Jésus représente le juste en Israël, condamné et offrant le salut à tous, juifs et païens. Le projet de Dieu de rassembler en un Israël nouveau tous les hommes de la terre trouve ici son aboutissement.
C'était Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présenté par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine.
Les anges ont-ils des ailes ?